Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La négritude n'est pas simplement un mouvement littéraire dont certains textes canoniques, comme le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, sont restés gravés dans l'histoire de la littérature de langue française. C'est aussi un concept au contenu politique et idéologique, un rejet du colonialisme et l'affirmation d'une identité noire. Si ses fondateurs, Senghor, Césaire et Damas, restent des figures centrales bien après la naissance en 1935 du terme de négritude, leur pensée, qui est comme ils le rappellent souvent ancrée dans un contexte historique bien particulier, est au fil des années de moins en moins sacralisée. À partir des années 60, on reproche souvent à la négritude un universalisme presque essentialisant, parlant de la condition de l'homme noir au singulier plutôt qu'au pluriel. Dans ce numéro de dialogue par Roger Pilaudin, diffusé pour la première fois le 17 mars 1981, c'est René Depestre qui est appelé pour défendre la négritude contre les critiques d'Édouard Glissant. Le premier, poète, romancier et activiste politique haïtien, est l'une des figures les plus actives de la négritude, bien que peu connue du grand public. En face de lui, Édouard Glissant incarne une remise en question du concept de négritude, qu'il trouve trop généraliste, trop abstrait presque, et y préfère des concepts plus spécifiques pour désigner des réalités et des conditions précises, comme par exemple l'antillanité qu'il défend ici. Un débat entre deux des poètes et des penseurs les plus virtuoses de leur génération, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Nous proposons ce soir un dialogue avec René Depestre et Édouard Glissant. Ce dialogue a pour titre « Négritude et antillanité ». René Depestre est de nationalité haïtienne, il est poète, écrivain. Il a publié une dizaine de recueils de poèmes, parmi lesquels « Minerai noir »,« Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien »,« Poète à Cuba ». Il est l'auteur d'un roman, « Le mat cocagne », et d'un essai intitulé « Bonjour et adieu à la négritude ». Il a écrit un recueil de nouvelles, « Alléluia pour une femme jardin », qui doit paraître prochainement chez Gallimard. Édouard Glissant est martiniquais, il est lui aussi écrivain et poète. Il a écrit de nombreux recueils de poèmes, parmi lesquels « Les Indes »,« Le sel noir ». Il a obtenu le prix Renaudot en 58 pour son roman La Lézarde et le prix Charles Veillon en 65 pour un autre roman, Le Quatrième Siècle. Il est également l'auteur d'un essai, L'Intention Poétique, une pièce de théâtre, Monsieur Toussaint. Il doit publier fin avril deux livres, Le Discours Antillais et un roman, La Case du Commandeur. Édouard Glissant.
Il est historiquement établi que la théorie de la négritude a marqué et inspiré toute une génération d'intellectuels des pays dits du tiers-monde, en Afrique et dans la diaspora africaine. Né avec le mouvement de la Renaissance à Harlem, County Cullen, Claude Mackay, Langston Hughes, entre autres, relayés par le courant dit indigéniste en Haïti, Price Mars en particulier. Cette théorie est illustrée dans le monde francophone, d'abord par les œuvres de Léon Gontran Damas, d'Aimé Césaire et de Léopold Senghor. Elle a reçu un appui non négligeable de Jean-Paul Sartre à l'occasion d'un texte intitulé « Orphée noir » et qui servait de préface à l'anthologie des poètes noirs de Léopold Sédar Senghor. Sans préjuger dès maintenant du contenu de cette théorie, on est en droit d'affirmer que si elle a été une inspiratrice fondamentale, elle n'est intervenue à aucun moment en tant que telle, ni sous forme d'idéologie dans les mouvements de libération apparus dans le monde africain. On a même pu dire que certains de ces avatars, supposés légitimes ou non, se sont révélés particulièrement funestes. Ces ambiguïtés, qui tiennent à la large définition possible du terme lui-même, justifie qu'un effort de synthèse soit entrepris à son sujet. René de Pestre, nous commencerons donc cette discussion par un exposé de motifs à propos de ton dernier ouvrage « Bonjour et adieu à la négritude ». Et d'abord, pourquoi ce bonjour et pourquoi cet adieu ? Pouvons-nous à cette occasion lever les ambiguïtés dont j'ai parlé au début.
René de Pestre.
Tu as dit pourquoi ce bonjour et pourquoi cet adieu. Mais je pense qu'il ne faut pas séparer les deux termes parce qu'ils sont dialectiquement liés. C'est bonjour et adieu à tout moment. Bonjour et adieu à la négritude. Mais je crois qu'il faut situer bien ce débat. Et je ne peux pas parler de négritude sans me référer à un autre concept qui est contigu, qui historiquement est voisin de la négritude. Il s'agit du négrisme. Et c'est par le négrisme que j'ai commencé et mon recueil d'essais. Je définirai le négrisme, qui est un concept d'ailleurs très peu connu, pas seulement dans notre région, dans la Caraïbe, mais en Amérique latine en général, et en Europe, qui est à peu près complètement inconnu. Mais on pourrait, et pour cause, je dirais, le négrisme, on peut le définir comme le mode évolutif de représentation de l'Africain subsaharien dans les cultures de l'Occident. Le négrisme a précédé la négritude. Et de nos jours, bien que le négrisme, comme mouvement de sensibilité et d'idées, est disparu, est cessé de se manifester, tout au moins dans les lettres latino-américaines, depuis les années 40, il existe un négrisme, disons, diffus dans la conscience et dans la Weltanschauung, excusez-moi ce mot affreux, dans la Weltanschauung de l'Occident chrétien. C'est-à-dire on continue à avoir une représentation absolument erronée de l'Africain subsaharien. Et cette représentation relève d'un manichéisme assez sommaire, manichéisme qui recoupe la division manichéiste du monde en jour et en nuit, qui recouvre la division du jour et de la nuit, la hiérarchie du soleil et la hiérarchie de la nuit. Et pour illustrer très brièvement ce que je dis, je prends deux vers de Lamartine. Comme vous savez, Lamartine, au milieu du siècle dernier, a consacré une pièce de théâtre aujourd'hui oubliée au héros haïtien Toussaint Louverture. Dans ce livre, on peut trouver des vers remarquables de l'auteur du Lac et d'autres vers d'une mièvrerie déconcertante. On trouve ces vers. S'adressant aux Blancs, il dit: il fait jour dans votre âme ainsi que sur vos fronts. La nôtre est une nuit où nous nous égarons. C'est Toussaint Louverture qui dit ça. Donc, notre âme serait une nuit où nous nous égarons. C'est de là qu'est parti le négrisme universel, si je peux dire, qui implique une sorte de rapport particulier de soi-même avec soi et de soi-même au monde. Mais le fait historique central du négrisme, je crois, et qu'on retrouve dans la négritude, et qui fait que je peux parler de négrisme diffus dans la culture de l'Occident, c'est que ce fait central est le suivant. Le négrisme a toujours établi un lien de cause à effet entre une certaine couleur de peau et l'expression poétique, romanesque, plastique et musicale. C'est-à-dire que si on se réfère à un écrivain italien ou à un musicien espagnol ou à un romancier anglais, on ne dira pas que c'est un écrivain blanc c'est un écrivain, on dirait un écrivain anglais, un écrivain italien. Mais pour peu qu'on se réfère à n'importe quelle manifestation artistique d'un homme qui est né au sud du Sahara ou bien aux Antilles, au Brésil, s'il a une certaine couleur de peau, on dira que c'est l'œuvre d'un écrivain noir, ça relève de la culture noire, de la musique noire, etc., etc. Donc, dans ce lien qu'on a établi entre une couleur de peau et l'expression artistique, c'est seulement unilatéralement, par rapport aux descendants d'Africains, à l'Africain, qu'on fait intervenir la question de couleur. Et c'est de là que vient le négrisme. Mais ce négrisme est un phénomène qu'on retrouve, c'est un phénomène daté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de négrisme sous l'Empire romain, ni en Grèce, même dans le haut Moyen Âge, il n'y a pas un négrisme ni même de Montaigne ou bien des poètes de la Pléiade. Donc c'est-à-dire que le négrisme coïncide avec les aventures d'outre-mer, les aventures de l'économie capitaliste en Afrique et en Amérique. Parce que pour le haut Moyen Âge, tous ceux qui vivaient au sud de la Méditerranée étaient tenus soit pour des morts ou bien des Éthiopiens. Naturellement, il y avait des légendes qui touchaient le prêtre Jean, le fils de Cam, et qui, dans l'iconographie chrétienne notamment, attachaient une espèce de malédiction à cette couleur de peau, à une certaine couleur de peau qu'on a décidé qui était noire, n'est-ce pas? C'est à partir de ce moment-là que le négrisme a envahi la conscience immédiate de l'Occident et qu'on peut suivre à la trace, comme l'a fait Jean-François Hoffmann dans un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Le nègre romantique ». On pourrait faire le même travail sur la littérature anglaise, la littérature portugaise, la littérature espagnole notamment, parce que s'il y a un négrisme des romantiques français, de Chateaubriand, des hommes des Lumières en France, il y a un négrisme encore plus marqué des auteurs du siècle d'or espagnol. Et personne n'a poussé le négrisme plus loin qu'un Quevedo, par exemple, dans la caricature de l'homme subsaharien. Donc, ce négrisme diffus dans les œuvres d'art s'est manifesté depuis le 15e siècle jusqu'à nos jours, qui existe encore. Mais à un moment donné, c'est pour cela que je dis que c'est un phénomène évolutif, le négrisme a changé, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que on parvenait à une meilleure connaissance de l'Afrique et des Antilles, certains écrivains ont commencé à prendre une conscience moins condescendante, disons, de l'homme africain. Et à partir de 1927, le négrisme s'est constitué en mouvement peu connu, mouvement d'expression espagnole, notamment dans la Caraïbe, à Cuba, à Porto Rico, avec un poète qui n'est pas très connu, mais qui est un très grand poète, qui s'appelle Luis Pales Matos, un poète cubain qui s'appelle Emilio Bayagas, un poète brésilien qui s'appelle Jorge de Lima, et tous les grands écrivains sud-américains de cette époque ont fait du négrisme, à un moment donné, de leur travail, de leur discours créateur. Qu'il s'agisse de Efraín Huerta, ou bien même Jorge Luis Borges, a un très beau poème négriste, sans parler d'Aléo Carpentier, mais de tout le monde, mais ajoutait une espèce de corde noire à son arc entre 1927 et...
C'était avant ou après la Renaissance d'Harlem?
C'est-à-dire que c'est parallèle à la Renaissance d'Harlem. Mais ce qui est caractéristique, c'est que ce n'est pas un mouvement d'écrivains, disons, noirs, parce que je vais revenir sur ces notions de noir et de blanc à propos de la négritude, n'est-ce pas? C'était un mouvement, disons, d'hommes blancs, entre guillemets. Et ça a commencé peut-être même avec le père du négrisme, ce serait plutôt Rubén Darío. Je crois que Rubén Darío a écrit en 1892 un poème d'où l'on peut faire partir le mouvement négriste. Mactí aussi a écrit des poèmes plus ou moins négristes, n'est-ce pas, dans le meilleur sens du terme, chez José Mactí. Et après, il y a eu tout un mouvement, mais un mouvement valorisant. C'est la différence, parce qu'il y a eu aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, toute une littérature de la plantation, une littérature éminemment négriste, mais qui était caricaturale au possible, et c'est une littérature produite par des écrivains blancs qui ont connu une grande vogue, une grande célébrité au sud des États-Unis et dans l'ensemble des États-Unis jusqu'à la fin du 19e siècle. Et naturellement, on peut situer dans le même mouvement l'intérêt que les peintres, les cubistes notamment, des hommes comme Picasso, comme Vlaminck, comme Braque, Matisse, l'intérêt qu'ils ont eu pour les expressions culturelles de l'Afrique. C'est le cubisme européen qu'ont suivi des hommes comme Apollinaire, comme Sandrax et les poètes surréalistes, naturellement. Ça, c'est la meilleure époque du négrisme. Après, le mouvement s'est eu pour la bonne raison que les Noirs eux-mêmes commençaient à écrire.
Mais est-ce que tu fais une relation du courant négriste à l'explosion de la négritude?
Je crois en effet qu'il y a une certaine parenté, que peut-être même dans l'œuvre de Guillen, de Nicolas Guillen, on peut trouver. C'est pour ça qu'il y a une grande confusion aujourd'hui dans les anthologies. On cite Guillen parmi les poètes négristes, mais le très jeune Guillen, à 20 ans ou à 22 ans, a commencé par écrire des poèmes négristes pour vite se retrouver et exprimer la cubanité, c'est-à-dire le monde propre de Cuba, du dedans. La différence entre négrisme et négritude, c'est que le négrisme, c'est une représentation extérieure du noir à travers la culture occidentale, dans différentes cultures nationales, aussi bien brésiliennes, mexicaines, nicaraguayennes que cubaines ou portoricaines. Tandis que la négritude commence, quand, si on s'en tient à ce terme, n'est-ce pas, quand les poètes noirs américains, comme tu l'as signalé, la Renaissance noire, aux États-Unis d'abord, ensuite le mouvement indigéniste haïtien, Guillen à Cuba, et Césaire, Senghor et les autres à Paris ont commencé du dedans cette fois, à partir d'une expérience existentielle, non pas d'une façon condescendante ou bien en jouant avec les expressions de la culture populaire.
Édouard Glissant.
Oui, mais est-ce que l'expression culturelle du négrisme te paraît marquée d'une sorte de tare originelle? L'explosion de la négritude, est-ce qu'il y a un rapport de conséquence?
Non, pas un rapport de conséquence ni de cause à effet. Je crois que dans le négrisme, il y a une évolution, il y a un négrisme acceptable. Par exemple, celui d'Aléo Carpentier ou bien de Georges Delima, c'est la première fois que des intellectuels, disons blancs, considéraient l'héritage africain en Amérique avec sympathie. C'était préparé aussi. Il y a un négrisme qu'on trouve dans l'essai, dont je n'ai pas parlé, c'est celui des anthropologues, non pas des anthropologues européens, mais des anthropologues brésiliens, par exemple Nina Rodriguez, ou bien Fernando Ortiz, ou un homme comme Price Max. Il y a toute une approche négriste de l'héritage africain, réalisée par des hommes, des sociologues, des hommes de science.
Est-ce que le mouvement indigéniste en Haïti, c'est déjà la négritude ou c'est encore le négrisme?
C'est de la négritude, parce que dans le mouvement indigéniste haïtien, les Haïtiens commencent à parler du dedans, à exprimer les réalités haïtiennes avec un naturel, une force, qu'on ne trouve pas dans le négrisme proprement dit, où on a l'impression de quelque chose de superficiel, parce que ce ne sont pas des expériences existentielles. Tandis qu'à partir de l'indigénisme haïtien, et chez les grands poètes noirs des États-Unis, on ne peut pas parler de négrisme. Mais dans les anthologies qui ont été faites dans les pays de langue espagnole, on met tout le monde dans le même panier, aussi bien les tenants de la négritude que les poètes négristes, et c'est ainsi qu'on peut trouver, assez bizarrement, des gens comme Lope de Vega, ou bien Góngora, ou bien Jorge Luis Borges, ou Longfellow, ou Whitman, ou Federico Garcia Lorca, dans une seule anthologie, n'est-ce pas, relevant du négrisme universel, ce qui est un amalgame esthétique assez bizarre, parce qu'il y a des lignes de démarcation, et c'est ce que j'ai essayé dans ce livre, de bien tracer les délimitations entre négrisme et négritude.
Bon, alors pourquoi bonjour et adieu?
Pourquoi bonjour et adieu?
René de Pestre.
Maintenant, venons à notre propos. Et bonjour, parce que je crois qu'à un moment donné, l'homme noir, l'homme dit noir, devait assumer, et ça je ne veux pas reprendre les thèmes du magnifique travail, où il y a à boire et à manger d'ailleurs, de Jean-Paul Sartre sur l'Orphée noir, où il a montré qu'il fallait absolument passer par une médiation et poétique en l'occurrence, pour assumer la noirceur dont on a doté notre condition humaine, qu'il fallait exprimer cette conscience malheureuse dans des poèmes lyriques pour dépasser ensuite la négritude. Je crois que à ce moment, beaucoup de poètes comme Césaire devaient dire bonjour à la négritude.
Oui, mais est-ce que tu es d'accord avec Sartre quand il dit à un moment que le dépassement de la négritude se fera en s'englobant dans une sorte de notion de prolétariat universel.
À un moment donné, j'étais d'accord avec ça, sur ce point. C'est-à-dire qu'il a posé la question à la fin de son essai, et qu'arrivera-t-il si un jour le noir se réclame seulement de sa condition objective et ne fait plus intervenir cette subjectivité blessée qu'exprime la négritude. Est-ce que le grand flot noir colorera la rivière de la Révolution? Alors il pensait que le... Mais moi, je crois qu'on peut dépasser la négritude sans pour cela que ce soit en colorant le fleuve de la Révolution socialiste, n'est-ce pas? Et j'y reviendrai, mais il faudra d'abord que j'exprime mon propos au sujet de la négritude, n'est-ce pas? D'abord, pour comprendre la négritude, il faut démythifier absolument l'anthropologie traditionnelle. Je crois qu'aucun de nous, et tu seras d'accord avec moi sans doute, et tu es un ethnologue professionnel en plus, aucun de nous ne peut, et jusqu'à notre génération, aborder les problèmes de notre condition dans les Amériques sans remettre en question l'anthropologie. L'anthropologie, c'est la branche du savoir universel qui s'est occupée particulièrement de nous, qui a une vocation singulière depuis le XVIIIe siècle pour ce qu'on appelait d'abord le bon sauvage, ensuite les colonisés, les noirs, etc. C'est que l'anthropologie a des rapports de réciprocité, on peut dire, avec l'aventure coloniale. Moi, j'ai voulu faire un petit travail sémantique. J'ai essayé, et c'est dans mon livre, de voir d'où viennent ces notions insolites et qui ont eu une carrière tellement prodigieuse, si on peut dire, de blancs, de noirs, d'indiens, de mulâtres, etc. Pour commencer, écartons l'indien. Nous savons très bien que c'est à la suite d'une erreur de navigation, disons, de Christophe Colomb, que brusquement il a décidé que tous les peuples qui avaient une identité historique bien déterminée, qui étaient des Arawaks, qui étaient des Taïnos, qui étaient des Caraïbes, il a décidé qu'ils seraient des Indiens parce qu'ils s'étaient trompés, ils cherchaient l'Inde, il a trouvé ce qu'on appelait Amérique, qui ne s'appelait pas Amérique d'ailleurs, qui est une injustice ensuite. Donc pour l'Indien aussi. Ensuite, c'est noir et blanc. Déjà, brusquement, on s'est mis à appeler les Bambara, les Ibo, les Yoruba, les Angolais, les peuples au sud du Sahara, des Noirs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve à toutes les étapes de l'histoire universelle? Non. Ni chez les Romains, ni chez les Grecs, n'est-ce pas? Ces hommes étaient des Noirs, n'est-ce pas? Et il n'y avait aucune connotation esthétique, ni morale, ni sociale, dans la perception que les hommes d'avant l'aventure coloniale avaient d'eux-mêmes. Pour les Blancs aussi. À un moment donné, les Espagnols, les Français, les Anglais, qui étaient des colons, qui avaient une condition sociale bien déterminée, c'est-à-dire qui étaient soit des commerçants, des militaires, des marins, des aventuriers, des prêtres, et qui relevaient de différentes fonctions sociales, brusquement se sont mis à se percevoir blancs. Et les autres, qui étaient des agriculteurs, des marins, des sorciers, des notables de l'Afrique, on les a baptisés noirs. C'est-à-dire qu'on a créé un nouvel imaginaire, l'imaginaire de la colonisation qui persiste encore. Nous savons que chaque grande formation sociale se donne un imaginaire particulier. Or, l'économie de marché s'est donné cet imaginaire. C'est-à-dire, comme autrefois, il y avait des plébéiens, des patriciens, n'est-ce pas, brusquement, le maître et l'esclave, Prospero et Caliban, ont été baptisés, sans qu'on ait consulté Caliban naturellement, baptisés noirs, baptisés blancs.
Pourquoi la négritude alors?
Alors la négritude justement, c'est qu'à un moment donné, ça a eu des conséquences tragiques, ou outre le fait colonial qu'il faut mettre en relief dans un débat pareil, qui consiste dans une espèce de désarticulation générale des cultures héritées d'Afrique en Amérique, du fait même de l'esclavage, Le sentiment d'être noir et d'avoir lié ensuite dans le pédantisme chrétien la notion de noir à la notion de péché, à la notion de saleté, à des notions diaboliques, à tout un ensemble de connotations plutôt péjoratives, fait que, la colonisation a eu, sur le plan ontologique, des conséquences extrêmement graves, dont le complexe d'infériorité, ce que Roger Bastide appelle l'ambivalence socialisée, c'est-à-dire la honte d'être noir, c'est-à-dire le besoin de s'échapper de ce qu'on est, le bovarisme intellectuel, etc. etc. Donc, aucun être humain n'accepte sans se révéler, sans se marronner d'une telle situation, l'accepte telle qu'elle. Donc, à un moment donné, il fallait se révolter. Je crois, pour ma part, que d'une part, il y a eu une révolte sociale dans le fait historique, politique du marronnage, qui est un phénomène sociopolitique, comme vous le savez, qui était le fait pour les esclaves d'abandonner la plantation ou l'atelier colonial, de reconstituer dans les montagnes de la Caraïbe et des Amériques, de constituer des foyers, non seulement des foyers de rébellion, mais des foyers culturels, où on restructurait ce qui avait été, tout ce qui était déculturé, où on reconstruisait sur le plan religieux, linguistique, sur le plan culinaire, sur le plan sexuel, sur tous les plans, on reconstituait non pas une Afrique nouvelle, comme on croit, n'est-ce pas, mais d'autres peuples, d'autres mondes, une autre civilisation, une civilisation caribéenne, une civilisation américaine ou des civilisations américaines.
Nous écoutons ce soir un dialogue avec René Depestre et Édouard Glissant. Ce dialogue a pour titre « Négritude et antillanité ». Édouard Glissant.
René Depestre, la critique ou l'amorce de critique que tu fais à la notion de négritude, tout en reconnaissant la nécessité historique de l'apparition du concept de négritude, peut laisser planer le doute ou, disons, laisser poindre le danger d'une sorte de référence à un universel généralisant, n'est-ce pas ? Parce que quand on dit, à une époque, il n'y avait pas de regard chosifiant, de réification, on ne désignait pas les gens comme noirs ou blancs, etc., et que c'est intervenu, ce qui est la vérité d'ailleurs, avec la colonisation et les besoins du commerce colonisateur, on peut laisser croire, ce discours peut laisser croire qu'il y a pour l'humanité une sorte d'universalisme ou d'universalité généralisante, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, nous sommes tous des hommes, nous sommes tous issus de la même souche, ce qui est certainement vrai, mais nous avons tous, disons, le même modèle, nous avons tous le même idéal, n'est-ce pas, d'ascension, de perfection, etc. Nous pouvons tous réaliser de la même manière en nous l'humanité. Or, je crois que il y a là un danger, parce que l'universel généralisant amène à une sorte de conception transparente de l'homme, où chacun peut se croire autorisé, étant persuadé que sa conception de l'homme est la bonne, n'est-ce pas, à obliger le voisin ou l'autre, n'est-ce pas, à accepter, à adopter, à intégrer, à assimiler cette conception de l'autre. Autrement dit, il me semble que l'universel généralisant est synonyme d'intolérance et d'oppression réelle dans les phénomènes de colonisation et aussi d'oppression intellectuelle. Et il me semble qu'une des armes... une des armes contre cette prétention à l'universel généralisant, ce serait précisément de revendiquer pour chacun, pour chaque peuple, pour chaque culture, non seulement ce qu'on appelle maintenant le droit à la différence, qui semble un peu acquis intellectuellement, mais qui n'est pas du tout acquis dans les faits, n'est-ce pas? Non seulement le droit à la différence, mais ce que j'appellerais le droit à l'opacité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne puis pas dire que ce que je ne comprends pas n'est d'une culture ou d'un trait de culture, n'est pas valable dans son contour et dans son contexte. Par conséquent, un certain droit à l'opacité qui combattrait le modèle transparent, le modèle évident d'un universel généralisant. Et dans ce sens, je pense que s'il faut regretter l'apparition d'un négrisme, n'est-ce pas, comme phénomène, il ne faut pas, au contraire, je crois que il ne faut pas, non seulement il ne faut pas regretter, mais il faut dire et affirmer que une partie de la négritude conçue comme théorie générale, bien entendu, avec tous les inconvénients d'une théorie générale, une partie de la négritude a essayé de prendre en charge cette espèce d'affirmation d'un droit à l'opacité combat les intolérances de la transcendance universelle. Nous allons tous au même endroit, donc je peux te prendre par la main et te faire faire le bout de chemin pour y aller, et tu iras par mes voies parce que je suis déjà plus évolué, je sais ce que c'est, et je vais te mener là où je veux que tu viennes. Il me semble que dans ce sens, ce serait peut-être le côté bonjour, n'est-ce pas, à la négritude. Mais pour revenir au début de mon exposé, ce qu'on pourrait te reprocher à tort, si on s'en tient à un discours rapide, c'est que la critique implicite de la négritude ne sous-entende que nous relevions tous d'un même universel généralisant, et ce qui serait une forme, selon moi, d'aliénation renouvelée.
René de Pestre.
Moi, je pense que la négritude elle-même, comme notion, relève d'un discours totalisant et universaliste, n'est-ce pas? C'est une notion, la négritude est née dans le sillage de l'anthropologie, c'est une notion éminemment anthropologique, et je crois que la meilleure façon, justement, de dire adieu à la négritude, c'est de s'accrocher à l'identité culturelle. La négritude était une notion révolutionnaire, une notion qui permettait, et là je ne suis pas d'accord avec toi quand tu penses que la négritude n'a aucune influence sur les mouvements de libération de l'Afrique, je crois que...
Pas en tant que tel.
Les intelligentsias qui sont apparus sur la scène entre les deux guerres mondiales ont aidé, ont encouragé le mouvement panafricaniste qui lui-même a aidé la prise de conscience du mouvement de libération dans les pays d'Afrique. Mais pour revenir à la notion d'universalisme, moi je crois que la négritude d'abord, ça a été un marronnage culturel, c'est-à-dire que quand les Noirs ont appris à lire, ils ont marronné, en commençant par l'Évangile, n'est-ce pas, en créant des religions autochtones. C'est un phénomène populaire, mais ils ont marronné les théories de l'Occident chrétien, et ils ont créé une littérature d'identification. Je crois que nous tous, jusqu'à notre génération, nous avons fait une littérature d'identification, et la négritude a aidé en nous permettant d'assumer sans drame, sans la couleur, de nous sentir à l'aise dans notre peau, de nous identifier historiquement. Et nous, à travers la négritude et à travers d'autres systèmes symboliques, nous avons pu, en Haïti par exemple, il y a pas seulement la négritude, mais le réalisme merveilleux, il y a des auteurs, je pense à Jacques-Stéphane Alexis, où la notion de négritude n'apparaît pas dans son œuvre, et qui pourtant a fait une œuvre valable. Je crois que c'est vrai pour ton œuvre aussi, n'est-ce pas? Tu n'es pas, proprement parlé, un militant de la négritude, pourtant tu as construit une œuvre, n'est-ce pas, sans passer par la médiation de la négritude. On pourrait dire cela de certains auteurs africains comme Chikaya ou Tamsi, par exemple, et d'autres auteurs africains qui n'ont pas fait intervenir à aucun moment de leur œuvre ou à travers leur personnage ou leur expression poétique la notion de négritude. Mais c'est une notion qui, chez Jacques Roumain, chez Langston Hughes, chez Césaire, chez Senghor, chez beaucoup d'écrivains éminents, de Damas, par exemple, nous ont permis de mieux identifier notre histoire, de mieux connaître les composantes historiques de nos cultures particulières. Et dans ce sens, je suis d'accord avec toi qu'il faut s'appuyer sur des choses concrètes comme l'identité. C'est-à-dire que chacun de nous bien qu'ayant hérité à la fois les composantes de nos cultures, à la fois de l'Afrique et de l'Europe, ayant créé, nos peuples ayant créé dans nos pays un métabolisme particulier qui a fait de nous, tout en étant antillais, des Américains, globalement des hommes du continent américain, reconnaissables entre nous en de nombreux traits et socioculturels, n'est-ce pas, il y a des différences entre nous-mêmes, qui fait que l'identité caraïbéenne, même je dirais beaucoup plus en particularisant davantage, l'identité haïtienne et l'identité martiniquaise ne se recoupent pas purement et simplement entre elles, pas plus qu'avec celle du Brésil, de Trinidad ou bien de la Colombie ou du Venezuela. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de la nationalité, il y a le phénomène national qui fait que qui nous protège d'un universalisme abstrait. Mais oui. En même temps, et là c'est dans l'introduction de mon livre qui doit être après, parce que quand je dis bon adieu à la négritude, n'est-ce pas? Il faut se poser, mais quoi être, n'est-ce pas? Comment allons-nous nous percevoir? Bon, moi je me perçois comme haïtien. Quelqu'un qui est né dans des conditions historiques déterminées, qui appartient à une culture nationale déterminée, qui relève d'un corpus littéraire dont on peut voir très bien les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas? Et c'est vrai pour toi, c'est vrai pour un Brésilien, c'est vrai pour un Trinidadien, pour un Jamaïcain, n'est-ce pas? Donc voilà du solide, du concret, c'est notre appartenance à des réalités antillaises, à des réalités nationales, à des réalités et culturelle précise. Mais d'un autre côté, et c'est la question que je pose dans l'introduction de mon livre qui pourrait être une sorte de postface, n'est-ce pas? D'un autre côté, je vois que de plus en plus, et ça, c'est pas original de le dire, un homme comme José Martí, par exemple, au siècle dernier, disait que homme, la notion d'homme, la notion d'humanité dit plus que la notion de blanc, que la notion de noir, que la notion d'indien, que la notion de jaune. Je pense que toutes ces notions relèvent d'une époque absolument périmée. Ce sont des notions obsolètes. Et qu'il faut une autre perception. C'est-à-dire que nous approchons de l'époque, et les conditions existent déjà dans la vie internationale, dans la communauté internationale, où une autre identité les coiffera. Je ne me réfère pas à l'humanisme universel, hélas, qui est une notion trop nuit où tous les chats ont été gris, mais plutôt à la notion d'une identité pan-humaine. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande humanité, il y a une sensibilité pan-humaine qui se constitue sous nos yeux. La nouvelle révolution scientifique qui a lieu à l'heure actuelle est en train, en ce moment, rapidement d'unifier le monde. La planète est en train de devenir non pas seulement un village, mais un foyer. Les révolutions dans les médias, les révolutions de la télématique, etc., font que de plus en plus, nous prenons conscience de l'unité ontologique de l'espèce, sans que ce soit un élément qui noie le poisson. Au contraire, de plus en plus, on est appelé à avoir une double identité. Une identité, disons, locale, et du terroir de chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? Et une super identité, une identité pan-humaine qui recouvre la condition humaine. Je pense que c'est la façon d'ailleurs, à mon avis, d'éviter un cataclysme thermonucléaire et que les hommes prennent conscience de l'unité, de leurs préoccupations, de leurs aspirations, de leurs besoins. C'est l'une des façons de dire adieu à la négritude pour retrouver une plus grande humanité. Pour que hommes disent chaque jour plus que blancs, que noir, que mulâtre, qu'indien, etc.
Oui, je ne suis pas tout à fait convaincu par ton discours. Et peut-être qu'on peut mettre un autre discours en parallèle avec le tien. D'abord, en ce qui concerne la théorie de la négritude. Tu connais, bien entendu, la fameuse phrase de cet universitaire du Nigeria, n'est-ce pas? Le tigre dans la forêt ne se mêle pas, n'a pas besoin de la notion de tigritude. Il se contente de bondir sur sa proie, n'est-ce pas? C'est une phrase qui a été très répétée. Et cette critique, à mon avis, valable par bien des endroits, ne tient pas compte, d'une part, des agressions inimaginables portées à l'encontre des cultures de l'Afrique ou de la diaspora africaine et ne tient pas compte non plus de cette diaspora elle-même. Nous avons été tellement dispersés, isolés, séparés les uns des autres, c'est ça, pour les besoins de la colonisation, qu'il me semble qu'un certain nombre de, disons, de théories d'ensemble nous sont nécessaires, au moins pour nous reconnaître, nous héler de loin, pouvoir commencer à dialoguer et échanger ce que nous avons à échanger. Ceci contre la dispersion, l'émiettement, ce qu'on a appelé les balkanisations, que les puissances coloniales ont fait intervenir en Afrique et dans la diaspora africaine. De ce point de vue, il me semble qu'il y a cet aspect, ce bonjour que nous pourrons dire à la négritude. Si je devais dire un adieu à la négritude, pour employer tes termes, ce ne serait peut-être pas, ou peut-être pas déjà, au nom d'un pan-humanisme.
Pan-humanisme, je n'ai pas employé le mot humanisme.
Oui, non, mais tu as dit pan-humain.
D'une identité pan-humaine.
Pan-humaine, nous sommes, enfin, tu permets que je passe de pan-humaine à pan-humanisme, n'est-ce pas?
C'est un glissement.
Oui, c'est un glissement dangereux. Mais qui me semble légitime, n'est-ce pas? Quand on dit pan-humain, le modèle n'est pas loin, n'est-ce pas? C'est-à-dire le moment où nous serons tous semblables. Or, je pense que c'est une des grosses illusions entretenues pour les besoins de la cause, que cette référence à ce moment où nous serons tous semblables. Et si je devais dire un adieu à la négritude, toujours pour employer tes termes, ce ne serait peut-être pas pour aller, disons, vers ce tout de suite ou directement, par un mouvement ascensionnel direct, vers ce pan humain, ce serait peut-être pour essayer de voir comment, échappant aux théories générales, à une théorie générale comme la négritude, nous pouvons, pour employer un terme pas tellement bon, n'est-ce pas, mais qui a le mérite d'être très parlant, nous pouvons nous enraciner dans des terreaux ou dans des terrains qui nous soient propres. Autrement dit, ce que je reprocherais à la négritude, par exemple, s'il y avait reproche à faire, c'est qu'elle est tellement généralisante qu'elle néglige le détail des particuliers. N'est-ce pas ce que tu as très bien dit tout à l'heure? Autrement dit, je suis un Antillais, je me considère comme un Antillais, je considère que les pays antillais sont des pays à peuplement nègre, et que par conséquent, un Antillais est un nègre, n'est-ce pas? Mais la théorie de la négritude me paraît tellement généralisante qu'elle peut, dans certains cas, mettre entre parenthèses ou oblitérer les réalités d'émergence des pays, et en particulier des pays antillais. Autrement dit, si je devrais dire un adieu à la négritude, ce serait, disons, au bénéfice d'une autre théorie qui croit que généralisante.
Laquelle, par exemple?
Celle de l'antillanité, n'est-ce pas? Puisque c'est le titre, n'est-ce pas, de notre débat, n'est-ce pas? Je crois que il faut considérer, pour nous, écrivains, intellectuels des pays antillais, il faut considérer que nous avons une histoire, nous avons des histoires convergentes. Et c'est cette convergence qu'on nous a offusquée et masquée jusqu'ici, bien entendu, dans l'histoire coloniale, n'est-ce pas? Mais il me semble aussi que les généralisations hâtives, pas hâtives, les généralisations nécessaires de la négritude ne sont pas de nature à permettre l'émergence de toutes ces histoires convergentes dans la Caraïbe, n'est-ce pas? Nous constituons un archipel qui a la même histoire, des cultures qui croient que différenciées ont une unité de base, c'est le système des plantations, et nous savons ce que c'est, un peuplement à base africain ou hindou, une aristocratie européenne, une langue de compromis qui est le créole, n'est-ce pas, subissant une diglossie par rapport aux langues officielles qui s'opposent à lui. Et par conséquent, nous avons exactement dans toute la Caraïbe, n'est-ce pas, une convergence, on pourrait presque dire, je ne dis pas une même histoire, parce que si je dis une même histoire, je recommence, n'est-ce pas, l'erreur dans laquelle on a voulu nous précipiter, c'est-à-dire l'erreur d'une unité ascensionnelle, n'est-ce pas. Je dis que nous avons une convergence d'histoire, et on nous a masqué cela, on a masqué cela aux peuples antillais. Nous ne pouvons pas nier, n'est-ce pas, ce genre, nous intellectuels, ce genre de convergence que nos peuples ont vécu d'une manière si spontanée et si tragique, n'est-ce pas, et si désespérée. Bien. Et par conséquent, nous devons essayer, c'est notre rôle, selon moi, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, dans le panorama actuel du monde, c'est notre rôle d'essayer, nous, en marge du combat de nos peuples, sans que nous prétendions nous prendre pour des porte-paroles de quoi que ce soit, ni des représentants, ni de quoi que ce soit, c'est notre rôle d'essayer de montrer, de faire venir à jour cette convergence, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis que si je devais dire un adieu à la négritude, ce ne serait pas tellement pour aller vers un pan humain que pour aller vers des sortes d'enracinement générique qui nous permettrait de nous reconnaître et d'être ensemble sans nous abolir les uns dans les autres.
René de Pestre.
Oui, mais pour moi, le racinement générique est donné, n'est-ce pas? Et nous, on s'est enraciné, entre autres, à travers la négritude, dans les réalités d'Haïti, par exemple. C'est-à-dire que si on veut caractériser l'ensemble de la production littéraire de notre pays de 1927 à nos jours, c'est l'histoire d'un enracinement chaque jour plus profond dans les réalités, non seulement historiques, mais existentielles, viscérales de notre pays. Donc, et c'est ce que j'appelle une identification avec l'histoire de notre pays. Pour moi, c'est donné. Et je ne suis pas contre la convergence, n'est-ce pas? Tout au long de mon livre, c'est ce que j'ai essayé de montrer, qu'il y a une antillanité, et même si je n'ai pas employé le mot, j'ai employé, moi, américanité. Parce que je pense qu'il y a une américanité antillaise, disons, n'est-ce pas, et une américanité continentale. C'est-à-dire que nous avons, souvent on l'oublie, quand on dit la Caraïbe, on croit que c'est seulement une notion géographique insulaire. Il y a une Caraïbe des îles, et l'archipel des Antilles, et puis il y a une autre Caraïbe continentale qui va jusqu'au nord du Brésil. C'est-à-dire que cette Caraïbe recouvre tous les pays qui ont été marqués par l'économie de la plantation. Tant sur le plan religieux, sur le plan musical, sur le plan culinaire, sur le plan ontologique, sur tous les plans, on retrouve cette américanité radicale, essentielle, n'est-ce pas, qui partirait même du sud des États-Unis. Donc, c'est là où je vois cette convergence, là, n'est-ce pas? Et la négritude, à mon avis, n'est pas responsable de cette convergence. C'est un des éléments. Pour moi, la négritude, c'est une des composantes historiques. Un mouvement, un mouvement disant, c'est le romantisme de l'intelligentsia dite noire entre les deux guerres, n'est-ce pas, un peu jusqu'à nos jours. N'est-ce pas, c'est une sorte de romantisme positif qui nous a permis de mieux poser les données de notre identité. C'est là l'aspect positif, pour moi, de la négritude. Mais je suis contre la négritude. Non seulement je dis adieu, n'est-ce pas? Dans d'autres débats, j'ai eu l'occasion de participer à des débats, notamment avec Aimé Césaire déjà en 1954, où je faisais une critique peut-être beaucoup plus sévère à l'époque de la théorie de la négritude, parce que je perdais de vue certains aspects. Je ne voyais pas suffisamment cet élément de médiation que j'ai relu après le texte de Sartre plus attentivement. J'ai compris qu'on ne pouvait pas non plus, selon un marxisme sommaire, pour écarter l'expérience raciale, existentielle, que les peuples originaires d'Afrique ont vécu sur le continent américain. Que ce serait de ramener tout à l'économie, et ça ne va pas. Il n'y a pas que l'économie qui tient la vie. Les peuples qui se sont battus sur le continent américain ont créé des religions, des cuisines, des modes d'être, des modes de sentir, d'agir absolument originaux qu'on peut globalement placée sous la notion de négritude. Mais qu'il n'y a pas que ça. Et quand on prend, j'ai pris par exemple les diverses définitions qu'on a proposées au sujet de la négritude. Il y a une définition que d'emblée, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, c'est d'ailleurs celle du grand poète du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, c'est de considérer la négritude comme l'ensemble des traditions négro-africaines. Dans ce cas, on laisse tomber tous les particularismes qui y est. L'originalité de nos cultures, ce qui fait que nous, étant nés dans des conditions historiques déterminées venant de l'esclavage, aujourd'hui, nous ne sommes ni Africains au sud du Sahara, ni Européens, pas plus qu'Européens, moins encore, n'est-ce pas? Chaque peuple a une histoire, concrète, n'est-ce pas? Nettement reconnaissable. Ensuite, on a dit que c'est une innocence perdue. C'est pas possible non plus. C'est même pas la peine de commenter ça. Ensuite, c'est un ensemble d'instincts ataviques. Là, on retrouverait les vies brûles et ce ne serait pas très sérieux. Ensuite, une attitude existentielle. Peut-être, n'est-ce pas, qu'il y a une attitude existentielle dans la mesure où la domination coloniale nous a marqué dans nos viscères même, a été une expérience existentielle et terrible. N'est-ce pas? Mais moi, la définition qui me plairait, c'est celle de Fanon, n'est-ce pas? Qui est peut-être la plus radicale, dans la mesure où Fanon acceptait, il a dit vite adieu à la négritude, n'est-ce pas? C'est un mouvement qui a relevé, n'est-ce pas, le défi déculturatif qui était la colonisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la colonisation a été un mouvement qui a déculturé complètement les ethnies qui ont été déportées sur le continent américain, qui ont dû, à partir presque de rien, se reculturer leur vie sociale, leur vie individuelle, pour déboucher sur les belles cultures qu'on peut observer aujourd'hui, qui se manifestent depuis le sud des États-Unis jusqu'au nord du Brésil et qui nourrissent une littérature extrêmement, extrêmement vivante, n'est-ce pas? Mais je crois que dans ce sens, la négritude est acceptable dans la mesure où il fallait passer. Moi, je pense qu'il faut en finir avec les notions raciales, n'est-ce pas? Même, je ne me perçois plus, je le dis ouvertement, et comme noir, n'est-ce pas? Je n'accepte pas, parce que je pense que je suis haïtien, n'est-ce pas? Et je ne vois pas le monsieur qui est en face de moi comme blanc. Il peut être un Français, il peut être un Anglais, il peut être un Italien, n'est-ce pas? Parce qu'en plus, il n'est pas blanc. Pour commencer, si nous voulons voir les choses de près, il serait, comme je le disais, au cours d'une émission, Chancel m'a demandé comment, de radioscopie, comment vous me voyez-vous. Je lui ai dit, monsieur, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt rose. Et si on s'en tient, si on s'en tient à la couleur, n'est-ce pas? Donc, c'est même que je trouve ça presque honteux, n'est-ce pas? Quand on considère la grande fermentation intellectuelle à laquelle l'humanité est arrivée, n'est-ce pas? Sur le plan technologique, sur le plan scientifique, et qu'on utilise des notions superstitieuses, n'est-ce pas? C'est la superstition de la couleur. C'est une superstition, tout simplement. Une superstition qui a une grande carrière, qui a eu l'appui de grandes forces politiques et militaires, n'est-ce pas? Qui a été célèbre, mais ça reste une superstition. C'est pour cela que je pense que, d'un côté, moi, je tiens les deux bouts, si tu veux, de notre identité culturelle. Le bout sur lequel tu insistes, et je suis d'accord avec toi, pour ne pas perdre le goût de son terroir, notre particularité, la chaleur antillaise, notre raison d'être, n'est-ce pas? Nos racines.
Ah non, et aussi
nos racines.
Et aussi des éléments de culture et de civilisation.
Nos racines, oui. N'est-ce pas? Racines qui ont été transplantées, remétabolisées, qui font que nous avons des cultures nationales, éminemment nationales, mais de ne pas perdre de vue non plus, parce que nous avons été absents quand même. Lors de la première, ou si nous avons été présents, c'est à travers notre combustible biologique, lors de la première Renaissance, qui n'était pas universelle parce que c'était trop lié à l'européocentrisme traditionnel. Mais j'ai l'impression, nettement, qu'en ce moment, nous sommes ou à la veille, ou déjà dedans, malgré les grands antagonismes qui dominent notre époque entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, nous sommes dans un mouvement de Renaissance. Et à ce titre, comme membre de l'intelligentsia, je ne dirais pas nègre, n'est-ce pas, antillaise, américaine, de nation américaine, nous devons être présents, donner notre avis, et à ce moment-là, nous retrouvons non pas la grande culture universelle à laquelle je ne crois pas, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a de plus en plus un dialogue interculturel, n'est-ce pas, dans le monde, entre soit des interculturels dans le cadre d'un pays, d'une région comme un autre, d'un continent comme l'Amérique latine, dite latine, n'est-ce pas? ou avec l'Asie, l'Afrique, n'est-ce pas, avec l'Europe considérée comme l'un des grands foyers culturels. Il ne faut pas être hypocrite de toute façon, parce que nous serions encore sous le charme de la conscience malheureuse si tout en nous exprimant, comme nous le faisons à ce moment en français, nous disions hypocritement que nous ne devons rien à la culture française. Nous serions de misérables hypocrites, n'est-ce pas? Que nous le voulions ou non, n'est-ce pas? Par suite des avatars de l'histoire, avec tous les massacres qu'il y a derrière ces paroles françaises dans notre bouche, n'est-ce pas? Mais nous avons un héritage aussi français que nous assumons aujourd'hui, mais nous savons qu'il y a une responsabilité commune. C'est pas seulement dans le cadre d'un hexagone historique, n'est-ce pas? Ça va beaucoup plus loin, ça va chercher des civilisations originales dont la France a besoin aujourd'hui, sinon nous ne serions pas là, n'est-ce pas? Il y a une responsabilité commune, qu'on appelle cette responsabilité aujourd'hui francophonie. Bon, c'est un terme que j'avance avec beaucoup de prudence, n'est-ce pas? Mais nous assumons notre héritage africain, notre héritage européen, avec beaucoup plus, d'autant plus de naturel, que non pas nous en tant qu'individus, mais nos peuples eux-mêmes ont su faire de la maladie, de la colonisation, la suprême santé de nos littératures. C'est ça qui est extrêmement positif. Que la négritude ait été une étape même nécessaire, n'est-ce pas? Et il faut l'admettre, d'autant plus que la négritude, ne serait-ce que parce qu'elle aura produit une œuvre comme le cahier, ne serait-ce que cela, comme le cahier d'un retour au pays natal de Césaire, même si la négritude n'avait produit que ce livre, je crierais à ce moment-là, vive la négritude, parce que quand j'ai lu ce livre, à 16-17 ans, je me suis littéralement roulé par terre parce que ce jour-là, j'ai eu la joie d'être nègre et la joie d'être simplement un être humain dans la parole d'Aimé Césaire.
Sur le thème négritude et antillanité, René de Pestre et Édouard Glissant répondent maintenant aux questions du public réunies dans l'auditorium 105 de la Maison de Radio France. Monsieur, il y a une question là.
J'ai une question pour chacun d'entre vous sur le dépassement, l'adieu que vous faites à cette négritude. Dans un cas l'antillanité, dans l'autre ce pan humain qu'on essaie de définir. Je me demande et je vous demande si en fait il s'agit d'un adieu ou si ça n'est pas après quelques dizaines d'années prendre ce qu'il y avait de meilleur dans la négritude. Pour l'antillanité, est-ce que, par exemple, cette sorte de retour à soi-même, de retour à son être, à sa nature, à son paysage, à cette solidarité, pas universaliste, mais proche, c'est pas déjà un petit peu ce qui s'était passé le mouvement que Tropic avait fait pendant la guerre, où on a vu une recherche d'approfondissement de soi à travers le conte, à travers la poésie, à travers un engagement politique, à travers une solidarité caraïbe qui essayait de se faire et qui se voulait d'Amérique latine. Donc, dans ce court moment de ce qu'on pourrait appeler la négritude antillaise, est-ce qu'il n'y a pas cela? Et d'autre part, pour ce qui concerne alors le panhumain, est-ce que justement cette sorte de difficulté que nous avons à le définir sans tomber dans l'humanisme, ça n'est pas justement ça une des grandes leçons de la négritude, puisque nous sommes tous partis d'une idée universelle que vous avez bien décrite, qui est nous sommes tous noirs et rejetés en tant que tels, et la leçon peut-être de la négritude, ça a été de dire attention, derrière cette sorte de couleur, derrière cette sorte de masque coloré, se cachent des choses très historiques qui sont la colonisation et par exemple et que la réalité raciale n'était pas en fait quelque chose de vrai, et qu'en réalité ce qu'il y avait c'était une solidarité à faire entre ces gens qui étaient en tous en même temps décolonisés.
Édouard Glissant.
Il n'est pas question, je crois que tu es d'accord René,
absolument d'accord.
Il n'est pas question de faire une espèce de ni condamnation, ni jugement d'ailleurs, de la négritude pour dire, bon, c'est mauvais en ceci, en ceci, en cela. Je crois que nous avons essayé honnêtement de montrer, et de Pestre et moi, ce que la négritude, non pas comme théorie, n'est-ce pas, car comme théorie généralisante, je serais encore réservé, mais ce que la négritude comme poétique nous a apporté aux uns et aux autres en tant qu'intellectuels. J'ai dit aussi qu'il est tout à fait certain, et je le redis parce que je le crois, que la négritude ne s'est pas tellement incarnée dans les mouvements de libération. Je me souviens de combattants angolais, africains, qui, par conséquent, qui me disaient « Dès qu'on prend un fusil, on laisse tomber la négritude. » N'est-ce pas ? Autrement dit, la négritude est une poétique inspiratrice et n'a pas vocation d'être, disons, une théorie de combat ponctuel. Nous sommes d'accord. Bien. Ceci étant dit, il est tout à fait certain que s'il n'y avait pas eu le mouvement historique de la négritude, la conception d'un enracinement caraïbe aurait été très difficile. Pourquoi ? Parce que dans un pays comme la Martinique, par exemple, plus de la moitié, ça c'est mon vœu personnel, plus de la moitié de la composante qui est africaine, n'est-ce pas, était reniée systématiquement comme infériorisable, comme damnable, Depeste l'a très bien montré. Et le Martiniquais ne pouvait, l'intellectuel, je parle toujours au niveau de l'intellectuel, Martiniquais ne pouvait retrouver la vérité de son être s'il n'y avait pas eu ce mouvement de la négritude qui rétablissait la balance et qui retrouvait l'harmonie. Et si on ne retrouve pas son être, on ne jette pas les yeux alentour. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, si on n'est pas soi-même équilibré, on ne voit pas la Dominique qui est toute proche, Sainte-Lucie qui est toute proche, la Guadeloupe qui est à côté, Haïti qui est là, Cuba qui est là, Porto Rico, etc., etc., sans compter l'entour créolisant de toute la frange de l'Amérique du Sud. Et par conséquent, toute théorie de l'antillanité ou de l'enracinement dans le pays antillais ne peut se concevoir qu'à partir de ce premier mouvement, n'est-ce pas, qu'a été la négritude. Maintenant, en ce qui concerne le mouvement de Tropique, il est tout à fait certain qu'on trouve en germe d'Anthropique à peu près tous les éléments que j'ai cités. Mais ils y sont de manière dispersée et non résolutoire, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela que je pense qu'une théorie de l'antillanité en ce moment pour les intellectuels antillais est nécessaire, n'est-ce pas ? Mais les éléments d'une telle théorie sont en germe, en effet, d'Anthropique, où on retrouve un conte cubain traduit par Lydia Cabrera, où on retrouve un texte d'Alejo Carpentier, où on retrouve etc. Mais c'est là en germe d'une manière dispersée et non résolutoire, et non pas de cette manière systématique qui est nécessaire si nous voulons conquérir quelque chose sur nous-mêmes.
La phrase que vous avez citée... Le tigre ne parle pas de sa tigritude.
Comment s'appelle-t-il ? C'est le Rolet Soyinka.
Soyinka.
Ah, c'est Soyinka. Bon, oui. C'est une phrase donc adressée par un romancier anglophone à Senghor. Oui, il me semble qu'elle traduit un petit peu l'agacement, voire la dérision qu'éprouvent les romanciers africains anglophones à l'égard des francophones et de la négritude. La question que je voulais vous poser, c'est comment expliquez-vous que ces romanciers anglophones, je pense par exemple à Achebe ou Soyinka, aient pu faire finalement l'économie de la négritude et fait des œuvres romanesques abondantes, est-ce qu'ils n'ont pas eu finalement 20 ou 30 ans d'avance puisque...
Moi je pense que c'est apparemment qu'ils ont fait l'économie de la notion de négritude.
Ils du concept ont eu, en tout cas. Oui.
Du concept, mais ils ont un autre concept qu'on appelle « black personality ». C'est la négritude. Ils ont fait la négritude dans le cadre de leur tradition culturelle, dans le cadre de l'héritage africain et britannique, et à leur manière, comme à Trinidad ou à la Jamaïque, ils ont repoussé aussi la notion de négritude.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence? Enfin, parce que bon, Senghor ne se sentirait pas insulté si on lui disait qu'il était un humaniste. Est-ce que le fait qu'il a été quand même un des principaux utilisateurs et le fait qu'il est un humaniste n'a pas quand même... Il y a une différence quand même entre black personality et négritude.
Je crois qu'une différence essentielle, et cela, Depes l'a bien dit, nous sommes marqués par... les cultures qui nous ont formés, les cultures généralisantes qui nous ont formés. Une différence essentielle tient à ce que les pays francophones ont une tendance à l'idée générale parce que le français, la langue française elle-même et l'esprit français tend à l'idée générale. Tandis que les pays marqués du sceau anglophone ont une tendance au pragmatisme et même s'ils font la négritude, même s'ils la réalisent, n'est-ce pas, ils ne veulent pas l'exprimer comme théorie générale. Par exemple, aux Antilles, les Trinidadiens et les Jamaïcains, qui ont été les premiers à faire un essai de fédération, c'est-à-dire à mettre en acte, n'est-ce pas, une unité antillaise. Il y a en ce moment une CARICOM, un marché commun antillais, avec Trinidad, la Jamaïque, etc., et tous les inconvénients ou tous les avantages que cela suppose.
Ils ont été aussi les premiers panafricanistes.
Les premiers panafricanistes, mais ils refusent de prononcer, n'est-ce pas, ou de développer des idées générales sur ce qu'ils sont en fait en train de mettre en pratique, n'est-ce pas? Il me semble que c'est là une différence de tradition héritée de deux courants opposés de l'Occident. Le problème pour nous, tant aux Antilles, je pense qu'en Afrique, ce serait de dépasser ce genre d'opposition et dont nous avons hérité. Et de commencer à jeter les bases de notre discours propre. Je ne sais pas s'il sera généralisant ou pragmatique, mais en tout cas, il nous faut dépasser ce genre de rivalité dont nous avons hérité, ça, dans la formation, de la manière même de parler, de nous exprimer et même de penser. Il nous faut faire un effort pour dépasser ce genre d'héritage bifide.
Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur.
Vous avez présenté le terme de négrisme comme le dépassement de négritude, en montrant, mais à la fois aussi comme opposition...
C'est le contraire, je crois. C'est la négritude qui serait le dépassement du négrisme, il me semble.
Non, à fortiori, je dis adieu au négrisme aussi.
Oui, alors, ceci en direction de ce que vous recherchez comme universalité. Et là, l'universalité, je voyais aussi une certaine appartenance. Vous appuyez sur l'appartenance nationale. Est-ce qu'un homme, en face d'une tâche quelconque, est-ce qu'il réagit en tant qu'un être, un individu national, où il se voit national après coup?
René de Pestre.
Moi, je crois qu'on réagit en tant que national, en tant que citoyen d'un pays, en tant que tributaire d'une culture historique bien déterminée, d'un homme né dans des conditions sociales et historiques bien déterminées. C'est comme ça que, en fait, personnellement, je réagis en tant qu'haïtien avant tout. Mais je ne veux pas m'enfermer non plus dans l'haïtianité, pour chère qu'elle soit à mon être le plus profond. Je pense que nous impacte d'autant plus qu'en ce moment il y a des dangers qui pèsent sur l'espèce dans son ensemble. J'essaie de tenir les deux bouts, vous voyez, c'est aussi une dialectique, et ça ne veut pas dire que je fuis et le particularisme nègre, n'est-ce pas, entre guillemets, pour retrouver une espèce de grand cocon universaliste où il fait bon vivre. Non, c'est pas une fuite. Et je vois des dangers réels, je vis avec le monde actuel et au jour le jour, je lis les journaux, et je vois toutes les menaces qui pèsent, non pas sur l'antillanité ou sur l'arabité, mais sur l'humanité dans son ensemble qui existe, qui c'est la communauté des peuples, la communauté des nations. Et je pense qu'on peut arriver à la notion d'une identité pour chaque être humain à double étage, qu'on le veuille ou non, on est de son pays et on est du monde entier. Le monde n'a jamais été aussi un comme maintenant. Et non, il ne faut pas perdre de vue, à mon sens, ces deux aspects. Et naturellement, ce soir, on a l'impression un peu d'avoir gommé l'universalisme de la Révolution. Moi, je ne veux pas porter cette responsabilité, d'autant plus que pendant longtemps, j'ai été un militant, n'est-ce pas? Mais je pense qu'aucun des modèles de société qu'on nous propose à l'heure actuelle n'est parvenu à faire ce qui me paraît l'essentiel, c'est-à-dire la synthèse des libertés sociales, des libertés individuelles et des libertés collectives. Voyez, c'est-à-dire de l'économie et de la culture, de la sensibilité et de l'économie. On a échoué jusqu'ici à faire cette synthèse. Et je crois que l'aspiration suprême de tous les peuples, c'est d'arriver à faire cette synthèse. Le monde communiste s'essouffle à vouloir faire cette synthèse dans les palinodies que nous connaissons, avec tous les drames que nous connaissons. Mais moi, en tant qu'ancien militant révolutionnaire, je pense que les drames du socialisme, par exemple, puisqu'il ne faut pas prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas? Ça concerne l'humanité entière. Ça montre la fragilité, la tragédie de la condition humaine, de même d'ailleurs que les drames du capitalisme. Et, n'est-ce pas? Le fait que ni un système, ni un autre ne soit parvenu dans sa problématique propre à résoudre les problèmes urgents qui sont des problèmes de donner à manger, à boire, d'assurer la santé, un logement, des choses concrètes à tous les hommes, et c'est le drame. Non seulement de l'Est, du Nord, du Sud, non, c'est le drame de toute l'humanité. C'est pour cela que je suis pris d'une espèce de tendresse et je ne dirais pas de compassion parce qu'on m'accuserait de vexer dans un monothéisme quelconque, n'est-ce pas? Alors que je tiens personnellement toutes les religions avec tout le respect que je dois au bouddhisme, à l'islam, à la religion, au catholicisme, au shintoïsme, au judaïsme, au vaudou, au candomblé, etc. Et je crois que toutes ces notions du Père qui ont été divinisées dans de grands courants religieux sont aujourd'hui dépassées. Il faut rénover les notions du bien et du mal, les notions de nation, les notions de patrie, les notions de race. Toutes ces notions, les réalités actuelles de la science et de la technologie nous obligent à faire un effort commun aussi bien aux Antilles qu'à Paris, et pour rénover toutes ces grandes notions, tous ces concepts. C'est pour ça que pour moi, le concept racial est parmi les superstitions auxquelles nous devons dire adieu, n'est-ce pas? Mais les plus dangereux, parce que ce sont les concepts qui ont fait couler le plus de sang dans la sombre histoire de l'humanité.
Mais René Depès, ce travail de l'identité que vous dessinez, est-ce qu'il passe nécessairement par le français, qui au fond est la vieille langue apprise, ou plutôt par le créole qui charrie toute la culture, toute la mémoire? Enfin, est-ce que c'est un vrai débat, un faux
non,
débat?
Pour moi, personnellement, c'est pas un problème, c'est pas un drame.
C'est
un faux débat. C'est oui. Ça l'exemple même du faux débat. Il y a une créolité radicale de toute l'Amérique qui se manifeste pas seulement au niveau de la langue, mais au niveau des mœurs, des traditions, de la musique. C'est ce qui fait l'originalité de notre pays. Ce sont des terres créoles, ce sont des civilisations créoles qui ont pris racine souche sur le continent américain, en incluant les États-Unis aussi d'ailleurs.
Je voudrais ajouter que, à mon avis, il faudrait en finir avec l'équation un peuple, une langue, n'est-ce pas? Et c'est le monolinguisme qui a toujours tendance à être impérialiste s'est développé en tant que tel dans l'histoire de l'Occident. Mais je crois que nous entrons dans une ère de multilinguisme nécessaire et même existentiel qui fait qu'on ne peut pas équivaloir l'identité d'un peuple ou d'une culture à la langue, à une langue que ce peuple utiliserait.
D'autant plus qu'en Afrique, il y a au moins 5 ou 6 langues souvent
oui,
par pays.
Mais quand je dis cela, j'ajoute quelque chose à ce que dit Depestre, en ce sens que je ne recule pas devant le problème de l'oppression de la langue créole par la langue française dans le contexte antillais,
colère.
N'est-ce pas? Il y a un véritable problème. Mais ce problème, à mon avis, ne sera pas résolu par une référence unique
et elle, à son tour tyrannique, a un usage unilatéral de la langue créole. Ce n'est pas la bonne réponse. On ne doit pas employer les armes de qui vous opprime pour se libérer. N'est-ce pas ? Il me semble que la bonne réponse, c'est l'appel au multilinguisme. Et par conséquent, le droit pour toute langue, où qu'elle soit parlée et par qui qu'elle soit parlée, a existé.
C'était un numéro de Dialogue intitulé « Négritude et antillanité » par Roger Pilaudin, diffusé pour la première fois le 17 mars 1981 avec René Depestre et Édouard Glissant.